Bonjour à tous.
Bonjour.
Pour introduire le message de ce dimanche de Pâques, permettez-moi de vous poser une question. Quel est l'événement le plus récent qui a changé fondamentalement et durablement le cours de l'histoire du monde et la vie des individus qui peuplent la Terre? Je précise un tout petit peu avant que vous ne répondiez. Fondamentalement, c'est-à-dire que la perception de la place des humains sur Terre, l'évolution des relations sociales avec les autres et la relation des humains avec Dieu est bouleversée. Durablement. C'est-à-dire que ce changement marqué par un événement historique se propage, se développe et se perpétue de génération en génération. Je répète ma question. Quel est l'événement le plus récent qui a changé fondamentalement et durablement le cours de l'histoire du monde et la vie des individus qui peuplent la Terre? Donc du coup, j'ai posé la question, vous avez le droit de répondre. La Révolution ? Révolution française, très bien. J'écoute.
La crucifixion du Christ.
Exactement. Donc nous avons la bonne réponse tout de suite. Vous auriez pu me répondre Internet. La découverte de l'ADN, le décryptage du génome humain, les congés payés, l'énergie nucléaire, la bombe atomique, le moteur à explosion, les avions, les fusées, le progrès de la médecine et de la chirurgie, l'imprimerie, la poudre à canon. Certes, ces différentes inventions humaines ont contribué à modifier notre quotidien pour le rendre différent du quotidien des générations antérieures à la vulgarisation de ces inventions. Mais, pour le côté fondamental et durable, ces réponses ne conviennent qu'à moitié. Finalement, c'est Jean-Louis qui avait la bonne réponse. Pour trouver la bonne réponse, il faut faire un saut dans l'histoire de 2000 ans. Jésus a vécu sur terre en Palestine. Il a enseigné ses disciples, il a enseigné le peuple, il a déstabilisé les autorités religieuses de l'époque. Jésus a accepté de mourir crucifié. Et voilà l'événement historique fondamental et durable. En ce matin de Pâques, nous fêtons sa résurrection. Nous allons lire encore une fois dans Luc 24, les versets 1 à 8. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. » Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Et elles se souvinrent des paroles de Jésus. Si Jésus était simplement décédé, est-ce que ces femmes auraient cherché à oublier les paroles de Jésus ? Mais non, Jésus est ressuscité. Et tout ce qu'il a enseigné prend du sens. Il a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14, verset 16. Il a dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jean 3, verset 16. Il a dit, « Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes, ils le feront mourir. » Et le troisième jour, il ressuscitera en Matthieu 17, versets 22 et 23. Voilà des belles paroles de Jésus qui devaient être présentes dans le souvenir de ces deux femmes à la découverte du tombeau vide. 2000 ans plus tard, on en parle encore. Et on continuera encore longtemps d'en parler. Cette résurrection de Jésus est donc bien un événement historique durable. Mais, fondamentalement, quels sont les enseignements de Jésus qui ont bouleversé le cours de l'histoire? C'est en nous souvenant de ses paroles et de ses actes que nous pourrons comprendre que notre monde contemporain du XXIe siècle est ce qu'il est, en grande partie à cause de l'enseignement du Christ ressuscité. J'aborderai trois domaines dans la méditation de ce matin pour illustrer cette idée. Premièrement, l'amour du prochain, quel qu'il soit, et la possibilité d'entrer en relation directe avec Dieu. Deuxièmement, la séparation de l'État et des pratiques religieuses. Et troisièmement, la mondialisation. L'amour du prochain, quel qu'il soit, est la possibilité d'entrer en contact direct avec Dieu. Nous lisons dans Matthieu 5, versets 43 à 48. Vous avez appris qu'il a été dit, « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Jésus reprend la loi de l'Ancien Testament et il enseigne comment il faut la mettre en œuvre. Tu aimeras ton prochain et même ton ennemi, qui est intégralement ton prochain. Les pharisiens de l'époque de Jésus avaient institué que seules les personnes respectables, à leurs yeux, étaient considérées comme leurs prochains. Ils avaient élevé l'hostilité à l'égard des méchants au rang de vertu et annulaient ainsi le commandement « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Au cours de son ministère terrestre, Jésus a rencontré toutes sortes de personnages, directement, et sans s'embarrasser de conventions sociales ou de précautions particulières, en toute liberté. Il a choisi ses 12 disciples parmi les gens du peuple, de différents horizons socioculturels. Jésus a rencontré personnellement toutes sortes de malades et de maladies. Il n'a pas cherché à éviter ceux qui étaient accablés par les accidents de la vie. Jésus n'a pas hésité à rencontrer des étrangers ou des étrangères. En Luc 7, au verset 1 à 10, nous pouvons lire, je ne vous la lirai pas parce que sinon on va dépasser l'heure, nous pouvons lire l'histoire de la guérison du serviteur du centenier romain. Le centenier romain, un étranger, un ennemi d'Israël, montré en exemple pour la grandeur de sa foi. Au verset 9, lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier. Et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » En Jean 4, au verset 1 à 26, Jésus, en traversant la Samarie, rencontre cette femme étrangère qui vient chercher de l'eau, et il engage la conversation en dépit de tous les préjugés et interdits de l'époque. En Luc 19, au verset 1 à 10, Jésus entre dans la maison de Zachée, le collecteur d'impôts haï de tous parce qu'il s'enrichissait sur le dos de ses contemporains. Jésus explique pour tout le monde, et en particulier pour ceux qui n'avaient pas encore compris, que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Dans la diversité des rencontres de ces personnages plus ou moins en marge de la société, Jésus montre que chaque homme ou femme créé à l'image de Dieu a droit à son empathie, sa compassion, son aide, à condition que la conversation soit sincère et sans hypocrisie. Nous pouvons remarquer également qu'à l'issue de cette rencontre avec Jésus, les gens remettaient en cause leur façon de vivre. Cette liberté individuelle de rencontrer Jésus et d'avoir une relation directe avec Dieu est devenue un droit universel. En 1948, les Nations Unies ont adopté la Déclaration des droits de l'homme, où il est écrit en particulier « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. » Ce droit implique la liberté de changer de religion. Par conséquent, rencontrer Jésus et devenir chrétien est un droit universel. Jésus nous invite à le suivre. Il ne contraint personne. Cette liberté qu'il a enseignée à ses disciples est devenue, 2000 ans plus tard, un droit universel. Pour notre deuxième point qui concerne la séparation du pouvoir et de la religion, je vous propose de lire là, en Luc 19, les versets 20 à 26. Pardon, c'est pas 19, c'est 20. Luc 20, verset 20 à 26. Ils se mirent à observer Jésus et ils envoyèrent des gens qui feignaient d'être justes pour lui tendre des pièges et saisir de lui quelques paroles afin de le livrer aux magistrats et à l'autorité du gouverneur. Ces gens lui posèrent cette question. « Maître, nous savons que tu parles et enseignes droitement et que tu ne regardes pas à l'apparence, mais que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Nous est-il permis ou non de payer le tribut à César ?» Jésus, apercevant leur ruse, leur répond « Montrez-moi un denier. De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription ?»« De César, répondirent-ils. » Alors il leur dit « Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. En général, la Bible enseigne plutôt de se soumettre au pouvoir politique afin que nous vivions paisiblement. Mais, dans certains cas, il faut savoir prendre position, comme l'apôtre Pierre, lorsque les chefs religieux de l'époque voulaient empêcher que l'on ne parle de Jésus. En acte 5, au verset 29, nous lisons, Pierre leur répondit, « Il faut obéir à Dieu plutôt que l'homme. » Il me semble que la séparation de l'Église et de l'État est tout à fait indispensable à la bonne compréhension et à la bonne circulation de l'enseignement de Jésus. Après une période de persécution des premiers chrétiens, lors de la conversion au christianisme de l'empereur romain Constantin au IVe siècle, l'Église s'est largement et durablement compromise avec le pouvoir politique pendant une dizaine de siècles. Il a fallu attendre la période de la Réforme, voire même de la Révolution française, pour qu'on se souvienne à nouveau de rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. En 1525, à Zurich, en Suisse, les premiers anabaptistes ont été persécutés par les autorités civiles de l'époque parce qu'ils prônaient la séparation de l'Église et de l'État comme Jésus l'avait enseigné. En France, la loi sur la laïcité conforte cette séparation du politique et du religieux et garantit la liberté à chacun de pratiquer sa religion tout en respectant les lois de la République. Aujourd'hui encore, rendons à l'État français ce qui est à l'État français et à Dieu l'obéissance qui lui revient. Venons-en à notre troisième point. Jésus est le précurseur de la mondialisation. Avant de retourner au ciel, il a donné cet ordre à ses disciples. En Matthieu 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus avait donné l'exemple en allant enseigner en Samarie et en rencontrant les occupants romains de la Palestine à son époque. Les disciples se sont rassemblés pour mettre en œuvre cette exhortation. La première Pentecôte a été un encouragement merveilleux pour la chrétienté naissante. Les voyages de l'apôtre Paul, envoyés par les frères de Jérusalem, a permis de diffuser la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ mort et ressuscité. Plus récemment, l'invention de l'imprimerie, la scolarisation du plus grand nombre, le fantastique travail de traduction de la Bible pour que chaque nation puisse avoir accès, dans sa propre langue, au message de l'Évangile, ces choses-là ont contribué à la diffusion mondiale de la bonne nouvelle, fondamentale et durable. Aujourd'hui encore, au XXIe siècle, le livre le plus traduit et le plus imprimé, c'est la Bible. Il est des livres qui traversent les époques et marquent les générations. La Bible, 3,9 milliards d'exemplaires vendus dans le monde entier, alors que nous sommes environ 7 milliards d'habitants sur Terre. Remarque. Il s'en est fallu de peu que l'enseignement de Jésus ne soit pas mis par écrit, tellement les apôtres étaient convaincus que le retour de Jésus sur terre était imminent. Et ce n'est que dans leurs vieux jours que Matthieu, Marc, Luc et Jean ont rédigé leurs évangiles. Mais le cours de l'histoire a été fondamentalement infléchi par le message de paix et de justice annoncé par Jésus. À nous de nous investir pour progresser dans notre vie de disciples de Jésus. À notre tour d'être obéissants à notre Seigneur et que notre vie et notre engagement contribuent à faire de nouveaux disciples là où nous sommes. Pour conclure, Dieu a créé le ciel et la terre. Ce sont deux univers distincts. Jésus est descendu du ciel pour venir habiter sur terre, pour nous expliquer ce que Dieu souhaite de la part des hommes et des femmes, et il est reparti au ciel. Le matin de Pâques, devant le tombeau vide, les femmes se souvinrent des paroles de Jésus. Nous aussi, soyons conscients et fiers que les paroles de Jésus, annoncées aujourd'hui sur toute la terre, diminue la violence et les souffrances humaines, malgré ce que veulent nous faire croire les médias modernes jour après jour. Amen. Amen.